up.
Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Enchanté de vous retrouver pour Culture Média au menu terrasse ouverte, cinéma ouvert, tous les médias ouverts et toutes les formes de culture ouvertes. Notre info média du jour est un petit événement avec la parole de quelqu'un de très rare dans les médias et pourtant au cœur des médias. Sébastien Missoff, c'est le directeur général de Google France. Au moment où l'on parle d'une amende record contre Google, il a choisi Culture Média pour s'exprimer à la radio. Nos invités ensuite, Nathalie André, ancienne directrice de la Star Academy, et la journaliste Karima Charny qui y a participé. Elles sont à l'affiche avec d'autres d'un grand show samedi soir sur TF1. C'est également un documentaire, 20 ans de la Starac, le doc événement. Enfin, la comédienne Charlotte de Turckheim pour son livre Le Dictionnaire de ma vie, dans lequel elle raconte tout, enfin presque tout, car il y aura en prime le portrait inattendu par Hélène Manarino qui nous dira tout ce qui n'est pas dans le livre. Vous retrouverez évidemment Bertrand Chameroy en espérant qu'il se soit remis de sa tournée des terrasses hier, et puis la sobre Eva Rock pour son zapping du lendemain. Et avant cela, dans quelques instants, le journal des médias d'Antoine Genton et les audiences de Louise Bernard, avec une première, les audiences cinéma d'hier. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti. Bonjour Louise Bernard.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Bonjour Antoine Genton.
Salut Philippe, bonjour à toutes et à tous.
Au sommaire, Antoine, de votre journal des médias.
Une nouvelle chaîne à l'étude pour diffuser le championnat de France de football, un pigiste de luxe pour la Formule 1 sur Canal+, et puis des révélations sur la collecte et l'utilisation de nos données personnelles. C'est dans un nouveau numéro de Cache Investigation ce soir.
Mais d'abord, les audiences avec vous Louise Bernard. Qu'ont regardé les Français hier soir?
Le foot, hein, c'était la finale de la Coupe de France Monaco-PSG. 4 220 000 téléspectateurs, 19,3% de part d'audience, France 2 qui est donc leader. Mais oui, laissez-moi finir, j'y arrive.
Je suis impatient,
Mais oui, c'est ce que vous avez regardé Philippe hier?
Pas du tout, j'ai travaillé hier, j'ai lu le livre de Charlotte de Turckheim.
Exactement. Alors ensuite c'est TF1, Esprit Criminel qui était de retour, c'est un petit retour, c'est la saison 15, l'ultime saison. La moyenne des deux épisodes inédits a attiré 3 410 000 téléspectateurs, 14,9% de part d'audience. Puis c'est Top Chef, épisode 15, 3 millions de téléspectateurs, 14,5% de part d'audience, là aussi un score en dessous des épisodes précédents, des soirées précédentes. C'est d'ailleurs le, je regarde en même temps que je vous parle, le deuxième moins bon score de cette saison.
Et puis, je le disais en sommaire, Louise, vous nous donnez un autre chiffre ce matin, celui de la fréquentation des cinémas hier, très attendu par les pros.
Oui, puisque c'était la journée de réouverture, une journée folle, ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est la Fédération Nationale des Cinémas Français. 200 000 téléspectateurs.
Spectateurs.
Ah là là.
Normal.
Mais oui, évidemment, dont moi, je le dis, j'étais au cinéma hier soir, ravie de retrouver les salles. Soit le double du 22 juin 2020, c'était la réouverture après le premier confinement.
Chiffre qui fait plaisir.
Culture Média.
Le journal des médias maintenant avec vous Antoine Genton, avec à la une la Ligue de football professionnel qui pourrait créer sa propre chaîne.
L'idée serait de diffuser les matchs du championnat dont Canal+ ne veut pas, autrement dit 80% des rencontres de Ligue 1 et 100% de celles de Ligue 2. Tout cela pour 10 à 11 euros par mois, information du journal L'Équipe. Ce matin, le projet a été présenté hier au conseil d'administration de la LFP, de la Ligue. Enthousiaste, selon le quotidien sportif. Une décision définitive devrait être prise dans 2 semaines.
On reste à la page sport avec un consultant de luxe pour Canal+ ce week-end.
C'est Romain Grosjean, pilote français qui a quitté la Formule 1 après un grave et spectaculaire accident. C'était fin novembre lors du Grand Prix de Bahreïn. C'est lui qui va commenter l'une des courses les plus attendues de la saison, le Grand Prix de Monaco, dont les essais libres commencent aujourd'hui. Il va prendre le temps d'un week-end la place de Jacques Villeneuve. Il sera donc aux côtés de l'inamovible commentateur de Canal+, excellent par ailleurs, Julien Febro, qui est aussi son ami, ça ne gâche rien. Voilà donc Romain Grosjean de retour dans le monde de la F1 et ça le ravit.
Ça me fait plaisir de pouvoir garder contact avec la Formule 1, avec les gens qui m'ont suivi quand j'étais en Formule 1, avec les fans français aussi, puisque courant aux États-Unis, c'est vrai que c'est un petit peu moins facile pour mon public, je dirais, de suivre. Et puis parce que c'est une belle expérience et c'est quelque chose qui fonctionne assez bien dans mon emploi du temps. Le faire à plein temps, pour le moment, non, c'est pas quelque chose qui m'intéresse plus que ça, mais de faire quelques venues sur l'année, notamment sur un Grand Prix comme le Grand Prix de Monaco. C'est un plaisir et une très belle expérience.
Romain Grosjean n'est plus pilote de Formule 1, mais il connaît bien ceux qui le sont encore. Par ailleurs, il sera au volant d'une Mercedes en juillet prochain pour une journée de test privé en France. Cela dit, dit-il, ça ne l'empêchera pas d'avoir une parole libre le week-end prochain.
Ça a toujours été un de mes points de dire ce que je pense. Alors ça ne m'a pas toujours servi. Mais voilà, je dis ce que je pense. J'ai beaucoup, beaucoup de respect pour tous les pilotes qui sont, qui sont en grille. Ça va être une belle expérience, un bon moment. Et je peux apporter un peu ma connaissance sur toutes les rouages et les choses un peu secrètes de la Formule 1.
Et cela, Romain Grosjean pourra en faire profiter les téléspectateurs dès après-demain pour les qualifications du Grand Prix de Monaco. Ce sera 14h45 sur Canal+. Départ de la course dimanche à 15h sur la même antenne. Et pour les plus accros, dont vous, Philippe, je le sais, les essais libres, c'est aujourd'hui sur Canal+ Sport à 11h30.
Je suis encore plus accro que ça parce que j'ai déjà lancé l'enregistrement. Et j'attends de voir ce que Romain Grosjean va dire sur Mazepin qui a pris sa place dans la voiture et qui est très mauvais. Depuis le début de la saison, c'est juste mon avis. Le Focus Programme du jour, c'est un nouveau numéro de Cash Investigation à voir ce soir sur France 2.
Ouais, c'est un numéro à la fois passionnant et terrifiant sur nos données personnelles, celles que nous générons chaque jour en allant sur Internet, en consultant des applications. Une enquête très riche, pleine de révélations sur la carte vitale notamment. Une enquête claire sur un sujet complexe et opaque, sujet sur lequel la réalisatrice Linda Bendali tenait à travailler.
On a beaucoup de ressentis, vous savez, des petites choses qui nous arrivent, on ne sait pas trop, une pub qui arrive par-ci, des éléments très troublants dans notre quotidien. Et du coup, on ne sait pas trop en fait quel est l'envers du décor. Et je me suis dit, tiens, c'est l'occasion d'aller de l'autre côté, de l'autre côté, d'essayer de comprendre, parce que c'est un enjeu fondamental que les données aujourd'hui, qu'on dit que c'est le pétrole du 21e siècle, parce qu'aujourd'hui, toute l'économie va être tournée sur l'utilisation de ces données, que le RGPD est entré en vigueur, que personne n'a vraiment compris ce que ça voulait dire et à quoi ça servait. Et je me suis dit, voilà, maintenant, on va essayer de comprendre ce domaine très opaque, quoi.
Voilà, en regardant Cash Investigation ce soir, vous verrez comment, à notre insu, des applications collectent nos données, même les plus intimes, comment certains logiciels permettent de récupérer des numéros de téléphone en échange d'un simple paiement, ceux de ministres et de hauts fonctionnaires de police, par exemple, ou encore comment les données de montres connectées regorgent d'informations qui permettent de comprendre, in fine, notre personnalité. Bref, comment de grandes entreprises ne respectent pas les règles et profitent de nombreux dysfonctionnements. Mais l'émission ne s'en tient pas là, elle évoque aussi quelques solutions. Linda Bendali.
Dans un premier temps, on peut avoir des gestes barrières, c'est-à-dire que moi, j'ai l'habitude, mais depuis longtemps déjà, de ne pas mettre la géolocalisation, de rentrer des fausses informations pour brouiller un peu les pistes. Mais c'est vrai que dans un monde hyper connecté, c'est de plus en plus difficile d'empêcher la fuite des données. Et ce n'est pas à nous, citoyens, de s'en soucier, il faut en avoir conscience. Le rapport de force, il sera dans la prise de conscience collective et ensuite sur le fait que les politiques s'emparent un peu plus volontairement de ce sujet et puissent faire un rapport de force avec les entreprises pour que les lois soient suivies, appliquées et qu'il y ait un vrai respect de la vie privée.
Linda Bendali, réalisatrice de Nos données personnelles Val de l'Or, nouveau numéro de Cash Investigation, c'est ce soir à 21h05 sur France 2 et déjà en ligne sur France.tv.
Deux journalistes vont être jugés pour chantage.
Jugés en correctionnel, décision de juge d'instruction à l'issue d'une enquête qui a duré près de 6 ans. Ces deux journalistes, Éric Laurent et Catherine Gracier, sont soupçonnés d'avoir fait chanter le roi du Maroc. On leur reproche d'avoir négocié une grosse somme d'argent, 2 millions d'euros, contre l'abandon de révélations présentées comme embarrassantes sur le souverain. Éric Laurent affirme que c'est l'émissaire du royaume qui lui a proposé un accord financier. La monarchie, elle, assure que la proposition venait du journaliste.
L'ONG Reporters sans frontières lance un nouvel outil pour lutter contre la désinformation.
Une plateforme baptisée Journalisme Trust Initiative. Elle est destinée aux médias. Elle doit leur permettre d'obtenir une certification, sorte de preuve que leur processus de production de l'information est fiable, de qualité et qu'ils sont donc dignes de confiance. Pour obtenir cette certification, qui pourrait être valorisée sur Google ou Facebook, il faut remplir 130 critères, parmi lesquels la transparence financière, la transparence sur les actionnaires, l'indépendance éditoriale, le respect de la déontologie. Une cinquantaine de médias internationaux testent actuellement cette plateforme. Parmi eux, l'AFP et France Télévisions.
Merci beaucoup Antoine Genton, on vous retrouve demain pour un nouveau Journal des Médias. Puis Louise Bernard, je vous dis à tout à l'heure pour votre indispensable culture.
À tout à l'heure.
Dans
à
un demain. Instant, notre info média du jour, on va recevoir un invité rare, même très rare dans les médias, Sébastien Missoff, directeur général de Google France. L'occasion de parler de sujets d'actualité qui l'entourent et qui suscitent parfois des polémiques, des droits voisins aux données personnelles. Et il a des annonces à faire. À tout de suite.
Europe 1, Culture Média. L'émission de référence sur les médias. 9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
C'est l'un des groupes dont on parle le plus et pourtant c'est l'un de ceux qu'on entend le moins. Google sait se faire discret dans les médias, enfin ses dirigeants, car ce géant du numérique, le G de GAFA, fait très souvent l'actualité et parfois même l'oriente. Il faut dire que les sujets qu'il concerne sont nombreux et parfois sensibles, et les relations avec la presse et la question de sa rémunération, le dossier des droits voisins dont on a beaucoup parlé ici, le traitement des données personnelles et également les actions menées à destination des secteurs de la culture et du tourisme. Alors quand l'un des patrons de cette entreprise, l'une des plus puissantes au monde, s'est s'exprime. C'est un événement et c'est dans Culture Média. Bonjour Sébastien Missoff.
Bonjour Philippe.
Vous êtes le directeur général de Google France. Merci d'avoir choisi Culture Média pour vous exprimer. Alors on a beaucoup de sujets à évoquer avec vous. On va commencer par la première étape du confinement qui réjouit tout le monde. La réouverture, oui, du déconfinement dit, la réouverture des terrasses et des lieux culturels. Hier, beaucoup de monde dans les cinémas, les musées, les expositions. Beaucoup de monde également sur Google à ce sujet.
Absolument. On a regardé les requêtes et en effet, par rapport au dernier confinement, on voit 10 fois plus de requêtes sur les lieux culturels et sur leur réouverture par rapport au dernier confinement. Il y a une formidable attente avec énormément de requêtes sur les horaires d'ouverture, sur toutes les informations.
Et les adresses des terrasses, j'imagine. La culture, c'est un milieu que vous dites avoir soutenu ces derniers mois, pendant la fermeture des musées particulièrement. Comment avez-vous fait ? Qu'avez-vous fait ?
Alors, dans les particularités de Google en France, on a 1200 personnes aujourd'hui et on a aussi le Centre mondial pour Google Art and Culture où on a une cinquantaine de personnes, d'ingénieurs qui travaillent sur le développement d'outils et de solutions pour accompagner le monde de la culture. Alors, c'est vrai au quotidien pour connaître les audiences, savoir quelles sont les requêtes qui sont faites, qui sont les personnes qui s'intéressent à tel et tel musée, à telle ou telle exposition pour les accompagner. C'est un travail de préservation. Et puis c'est surtout un travail de découverte dans les...
Il y a eu des visites virtuelles par exemple qui ont été mises en ligne.
Exactement. Donc la plus récente est le partenariat qu'on a fait avec Pompidou autour de Kandinsky qui a permis de mettre en avant une exposition très originale où on arrive à écouter les couleurs et de jouer sur cet élément-là. Une autre des applications qui était formidable était le fait de pouvoir faire des requêtes sur des couleurs. Ouais. Vous prenez une photo d'une requête, d'une couleur et vous êtes capable de voir toutes les œuvres d'art qui existent aujourd'hui avec cette même tonalité.
Autour du Centre Pompidou, l'œuvre de Kandinsky, il y a aussi des choses autour de la visite du château de Versailles. Au-delà de la visibilité, est-ce que cela apporte ? Est-ce que ces institutions gagnent de l'argent avec ces partenariats ? Est-ce que Google les rémunère ?
Aujourd'hui, on a un accord avec presque 2000 institutions dans plus de 80 pays. L'enjeu pour eux est d'apporter du trafic et de leur apporter de la visibilité. Il y a 500 millions de requêtes chaque mois liées au monde de la culture. Tout l'enjeu est sur ces requêtes, de leur donner une visibilité, de leur donner envie d'aller là-bas. Si vous prenez l'exemple de ce qu'on a fait avec le château de Versailles, on a investi des montants considérables pour les accompagner pour faire cette visite en réalité virtuelle de Versailles qui a permis de continuer à faire vivre Versailles pendant le confinement et qui donne envie à de plus en plus de personnes de venir. Et puis il y a un moment où il y a trop de monde et la réalité virtuelle devient une alternative.
Alors puisqu'on parle de la crise sanitaire et économique, on va évoquer un autre dispositif de Google en partenariat avec Atout France, un dispositif à destination des professionnels du tourisme. Il y en a beaucoup qui nous écoutent, des patrons de bars, de cafés, d'hôtels. Il s'agit d'un programme de formation à distance pour mieux comprendre les attentes des touristes étrangers. Il a été lancé le mois dernier. Comment ça fonctionne ?
Alors, le principe, et je pense le plus beau résumé, est ce qu'a dit Sundar Pichai, le patron de Google, avant-hier lors de I.O. Tout l'enjeu en ce moment, ce n'est pas de célébrer la technologie. L'enjeu, c'est de célébrer les hommes et les femmes qui utilisent la technologie. Et sur le monde du tourisme, ce qu'on voit, c'est qu'il y a énormément d'incertitudes sur qui sont les personnes qui vont venir cette année, cet été, et comment les accompagner. Et il y a un sujet qui est que ces outils sont souvent mal compris et mal utilisés. Si on prend l'exemple du tourisme, si vous avez un hôtel à Ploumanac en Bretagne, vous allez sur Google Trends aujourd'hui, vous pouvez voir que les requêtes les plus fortes en ce moment sont quels sont les horaires de marée, où on peut trouver des chambres d'hôtes, le nom de tel ou tel hôtel. Ces informations sont précieuses pour les communautés, pour les maires, pour les hôtels, pour les bars, les restaurants, de voir ce qui intéresse. Est-ce que ces requêtes viennent d'Allemagne, d'Italie, d'Espagne ? Et par rapport à ça, et faire évoluer leur stratégie. Donc c'est vraiment un enjeu de formation pour s'approprier toutes ces informations.
C'est un service gratuit ? C'est un service payant ?
C'est un service gratuit. Aujourd'hui, ça s'inscrit vraiment dans le cœur de ce qu'on fait autour de la formation, avec la conviction que la réussite de cette transformation digitale, de l'accélération du succès de ces entreprises, passe par la formation. La formation.
Alors ici, on est une émission média, je ne vous apprends rien, j'en viens au sujet épineux des droits voisins. Tous les patrons de presse nous écoutent et vous écoutent. Alors je vais essayer de résumer. Il s'agit de rémunérer les entreprises de presse pour les contenus qu'elles fournissent, des articles, des photos, des vidéos essentiellement, qui sont repris par Google, mais des contenus que Google n'a pas payés pendant des années. Mais quand on cherche quelque chose, on va sur le site d'un journal, c'est gratuit et c'est Google qui récupère la publicité et pas le journal en question. En fin d'année dernière, vous avez signé des accords individuels avec quelques journaux, Le Monde, Le Figaro par exemple, et puis un accord cadre il y a 4 mois avec l'APIG, c'est l'Alliance de la Presse d'Information Générale, syndicat qui regroupe près de 200 titres de presse, des quotidiens nationaux aux régionaux essentiellement, 63 millions d'euros sur 3 ans. Vous confirmez ces informations-là ?
Je vous confirme un certain nombre de choses. La première chose, c'est sur le sujet des droits voisins, on est absolument déterminé à trouver une solution, à respecter évidemment la loi, c'est-à-dire d'avoir un partage de la valeur sur les montants générés par Google sur des sites sur lesquels apparaissent des éditeurs de presse.
Je vais me faire l'avocat des patrons de journaux. Ce que vous appelez un partage, pour eux, ils appellent ça une obole. Ils disent que le montant n'est pas assez élevé eu égard aux investissements fournis pour donner de l'info.
Alors ici, on est dans le respect de la loi. La loi est très précise sur ce sujet-là et on va en parler. Il y a d'autres sujets et d'autres investissements sur lesquels il faut qu'on travaille. On travaille depuis des années sur des abonnements. On travaille sur la monétisation de la publicité sur les sites des éditeurs de presse. On travaille sur des sujet d'abonnement. On a fait un premier pilote avec Le Monde qui a permis de contribuer à 40% des abonnés supplémentaires. Donc ça, c'est les enjeux pour accélérer les revenus, réussir cette transformation. Et puis, il y a un sujet qui est dans le cadre de la loi, qui est les droits voisins, qu'on respecte et sur lequel on regarde, la méthode est simple, on regarde quelle est la valeur générée par Google sur des pages sur lesquelles apparaissent des titres de presse au-delà des courts extraits. Et à partir de là, on regarde cette valeur et on la partage avec les éditeurs de presse.
Aucun accord, en revanche, sur les magazines. Où est-ce que vous en êtes dans les négociations avec les magazines qui sont représentés par le SEPEM, le syndicat des éditeurs de la presse magazine?
Alors, c'est un sujet compliqué en effet, et il y a sûrement un certain nombre de choses qu'on aurait pu faire mieux, et la façon dont on a procédé était de procéder par étapes. La première étape, c'est qu'en France, les aides à la presse sont très fléchées autour de cette certification d'information de presse générale, et puis qui était aussi un des grands enjeux des droits voisins, de faire en sorte que cette information si importante aujourd'hui pour faire vivre la démocratie ait une place toute particulière. Et on s'est mis d'accord avec l'information de la presse générale pour cet accord cadre qui fait qu'il y a presque 300 titres de presse, tous les titres quotidiens régionaux, nationaux qui sont dans ce groupe. La deuxième question, et c'est beaucoup plus compliqué, ce que vous évoquez sur la presse magazine, si on prend des associations comme celle-là, il y a 500 titres. Sur ces 500 titres, il y en a 250 qui ont des sites internet. Sur les 250 sites internet, il y en a 60 qui sont des publications de presse. Donc tout l'enjeu est de s'asseoir, de définir quel est le cadre, une fois qu'on a ce cadre, de définir quels sont les revenus associés à ces titres-là, et d'avancer. Mais aujourd'hui, ce que je vais vous dire, c'est vraiment trois choses importantes.
Vous savez quoi ? On va marquer une courte pause et on va entendre les choses importantes que vous allez nous dire. Sébastien Missoff, vous êtes le directeur général de Google France. Et je dois dire que le SEPM, c'est pour ça que c'est très 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 important, a déposé une plainte devant l'autorité de la concurrence en fin d'année dernière. Où en est-on ? Réponse juste après cette courte pause. Culture Média continue.
Europe 1 Culture Média. 9h, 11h. Philippe Vandel. 9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Sébastien Missoff, sa voix est rare dans les médias et pourtant on connaît tous Google. Il est le directeur général de Google France. Nous parlions des droits voisins et de la polémique. Ça, vous savez qu'on est en France, dès qu'il y a un sujet, il y a une polémique. Je reviens à ce dont nous parlions, la SEPM, le syndicat d'éditeurs de la presse magazine qui n'est pas d'accord, puisque plutôt il n'y a pas d'accord entre vous et eux. Mécontent des discussions que vous avez menées, le SEPM a déposé une plainte devant l'autorité de la concurrence en fin d'année dernière. Google avait 3 mois, une demande de cette autorité pour mener des négociations de bonne foi, ce qui n'a pas été fait selon le SEPM, d'où la plainte. L'autorité de la concurrence a examiné le dossier au début du mois, il y a 2 semaines, et doit rendre sa décision dans les jours qui viennent. Elle pourrait vous infliger une amende. En coulisses, on parle même d'1 milliard d'euros, ce qui serait un chiffre symbolique. Êtes-vous inquiet de cette décision ?
Philippe, j'aimerais vraiment séparer deux choses. Il y a le passé et le futur. Le passé, c'est les injonctions auxquelles vous faites référence, qui sont les 3 mois. Où nous devions répondre sur les injonctions de l'autorité de la concurrence un certain nombre de choses, où nous avons négocié de bonne foi. Nous avons négocié de bonne foi dans des conditions difficiles. On avait 3 mois, dont 6 semaines de Covid et de confinement total, 6 semaines pendant l'été, pour avancer avec un certain nombre d'éditeurs de presse. On a eu plus de 50 réunions, on a avancé, on a fait le maximum. On n'a pas réussi dans les 3 mois à signer tous ces contrats. Mais on a continué à avancer depuis. Et aujourd'hui, on se tourne vraiment sur trouver des solutions. Et plus que jamais, je suis déterminé à trouver une solution sur les droits voisins.
L'exécutif dit que vous avez négocié, mais pas tout à fait de bonne foi, mais passons. Alors, l'avenir.
Alors, il n'y a pas encore de jugement qui a été rendu. On verra le moment venu. Sur l'avenir, il y a 3 choses vraiment importantes sur lesquelles je veux revenir. Le premier, c'est que je veux être très clair sur ce point. On reconnaît les droits voisins. Il n'y a pas de doute. On avance. C'est une loi. Et on travaille avec les éditeurs de presse pour trouver cette solution. Deuxième sujet, c'est que oui, nous avons commencé avec l'information de presse générale. Oui, nous avons signé ce premier accord cadre qui est important. Mais aujourd'hui, les discussions continuent avec les autres éditeurs de presse. Et je veux le redire et le reclarifier, ce n'est pas que pour l'information de presse générale. Et nous continuons à engager, à discuter avec d'autres éditeurs. Vous parliez de la presse magazine et un certain nombre de groupes. Il faut s'asseoir ensemble, ce qu'on est en train de faire, pour définir aujourd'hui, évidemment, est-ce qu'il faut un site internet, quel est le trafic, quelle est la relation avec Google pour avancer. Mais nous avançons et nous allons travailler sur les droits voisins au-delà de la presse d'information générale. Et puis le troisième, c'est que oui, on a fait un certain nombre de choses. Oui, je crois qu'on joue un rôle positif aujourd'hui en apportant 8 milliards de visites chaque mois sur les sites. Mais il y a un certain nombre de choses qu'on aurait pu faire mieux, qu'on aurait pu faire différemment. Et aujourd'hui, je pense que tout l'enjeu, c'est de recréer cette confiance. Et c'est tellement important aujourd'hui d'avancer vite, de travailler bien ensemble sur tous les enjeux, que ce qu'on va faire de différemment à partir de maintenant, c'est que les données aujourd'hui dont vous parliez tout à l'heure, qui sont clés pour définir le montant qui détermine les droits voisins, on veut travailler avec un tiers indépendant et qui on va partager ces données pour être capable de vraiment partir de ces données, avoir ce tiers indépendant et reconstruire la confiance et avancer le plus vite possible.
Le plus vite possible, dites-vous.
Absolument.
Les éditeurs qui nous écoutent sont évidemment enchanté d'entendre votre enthousiasme, votre envie d'aller de l'avant, mais ils attendent également des chiffres, pardon de dire les choses, parce que c'est ça qui les... C'est là où le bas blesse, c'est les chiffres.
Je ne crois pas que le bas blesse sur les chiffres. Aujourd'hui, ces chiffres-là, la loi est relativement claire aujourd'hui sur comment ils sont calculés, et donc tout l'enjeu aujourd'hui est de travailler le plus rapidement avec ces tiers indépendants, partager ces données pour pouvoir déterminer quelles vont être les rémunérations, et puis surtout un point qui est important, qui est un point de principe, mais qui a été notre pôle Nord depuis le début, qui est de garder des principes qui sont non discriminants, des principes qui sont transparents. Une des grandes fiertés dans l'accord cadre avec l'information de la presse générale, c'est que tous les titres sont éligibles dans cette famille, c'est que la façon dont le montant est réparti est transparent, non discriminant. Ce n'est pas à Google de choisir si on donne plus à tel ou tel titre, c'est fait avec des règles définies ensemble pour que cette répartition soit le plus transparente possible.
Alors il y a un autre amendement à ce projet de loi qui a été déposé au Sénat, qui demande que les négociations sur les droits voisins aient lieu d'un bloc avec toute la presse, et pas les quotidiens d'un côté et les magazines d'un autre. Que pensez-vous de cet amendement ?
Alors aujourd'hui, il y a un certain nombre d'amendements et je n'ai pas prononcé sur des sujets en cours. Ce que je vois aussi, c'est qu'il y a un certain nombre de questions qui se posent aujourd'hui, qui sont compliquées sur quel est le cadre exact. Je parlais toute l'heure de ce qui est le cas pour la presse magazine. Je pose aussi la question pour tous les sites d'information. Ce sont des discussions qu'on a avec tout l'écosystème pour avancer le plus rapidement possible.
Dans l'actualité de Google, il y a également le traitement des données numériques personnelles qui est une manne pour les géants du numérique, qui permettent entre autres de vendre de la publicité ciblée. Ce n'est pas toujours très clair pour les utilisateurs. D'ailleurs, Google a été condamné à une amende de 50 millions d'euros par la CNIL, qui est l'organe chargé d'appliquer la réglementation européenne, le RGPD, sur ce sujet. Vous avez changé vos interfaces. Qu'est-ce qui va se passer désormais ?
Alors aujourd'hui, il y a un enjeu absolument clé autour de ces sujets de transparence des données et de contrôle. C'est aujourd'hui les grandes attentes des utilisateurs. C'est vrai pour le contrôle et c'était les annonces qu'on a faites cette semaine à I.O. avec Android 12 qui va donner l'opportunité à tous les utilisateurs de regarder sur leur téléphone et de voir quelles sont les autorisations qui ont été données aux applications avec un objectif qui est de donner beaucoup plus de contrôle aux utilisateurs. Et ensuite, sur le sujet de la transparence, c'est tout l'enjeu de la fin des cookies tiers qui est déjà aujourd'hui recommandé par un certain nombre d'institutions européennes sur la vie privée, par certains acteurs de l'écosystème et sur lequel on travaille avec tous les acteurs.
Alors cela dit, vous dites ceci, mais il est toujours difficile d'avoir accès à nos données personnelles. C'est ce que montre le Cache Investigation qui va passer ce soir. La journaliste qui a réalisé ce film a demandé ses données personnelles à une quarantaine d'entreprises, dont Google. Google qui ne lui a jamais répondu. Est-ce que c'est normal ?
Aujourd'hui, si vous êtes un utilisateur de Google, vous allez sur mon compte, qui est le bouton sur tous les comptes Gmail et sur tous les comptes d'utilisateurs, et vous pouvez choisir, vous avez le contrôle sur quelles données vous avez, si vous voulez regarder sur Google Maps.
Attendez, vous voulez dire que la journaliste de Cache Investigation n'a pas réussi à faire ça ?
Je peux vous dire que chaque jour aujourd'hui, il y a 20 millions de personnes qui vont sur cette page et qui choisissent les informations sur leur vie privée. C'est absolument clé. Je parlais tout à l'heure de contrôle. C'est ça l'enjeu des prochaines années, de donner plus de contrôle aux utilisateurs. Sur l'exemple que je vous donnais sur Google Maps, vous pouvez choisir, vous pouvez regarder où vous étiez depuis quelques années si vous avez mis en place ce suivi. Et si vous voulez que ce ne soit pas enregistré, vous cliquez sur un bouton et il n'y aura aucune information aujourd'hui sur votre historique.
On peut remonter dans toutes les archives.
C'est à vous de décider.
Merci beaucoup de cette information, Sébastien Missoff, directeur général de Google France. Merci d'avoir choisi Culture Média pour vous exprimer.
Merci beaucoup, Philippe.
À très bientôt. Dans un instant, un brin de nostalgie avec un focus sur les 20 ans de la Star Academy, le télécrochet culte de TF1. Vous regardiez ?
Absolument.
On en parle avec Nathalie André, qui était la directrice artistique de l'émission et même la directrice de l'émission, et Karim Acharny, qui était candidate de la saison 4. À tout de suite.
Europe 1, Culture Média. L'émission de référence sur les médias. 9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Et oui, c'est Culture Média, et attention, générique. Bonjour Nathalie André.
Bonjour Philippe.
Vous avez évidemment reconnu ce générique, la Star Academy, vous êtes productrice, mais pas seulement, vous avez une carrière assez impressionnante à la radio, à la télévision. Vous avez été notamment directrice des divertissements de France 2 de 2011 à 2016. Et en 2003, vous étiez devenue directrice de la Starac sur TF1 en remplacement d'Alexia Laroche-Joubert. Karima Charny, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes animatrice radio, notamment à Europe 1, mais aussi à Fun Radio. Vous avez fait de la télé, vous êtes en ce moment dans la matinale de LCI le week-end, c'est
absolument
bien ça?
Absolument.
Et ce qui vous a mis le pied à l'étrier, Karima, c'est à 19 ans, en 2004, la quatrième saison de la Starac à laquelle vous avez participé. C'était l'année où Grégory Lamarchal avait gagné. Vous avez été éliminé après 5 semaines.
Oui.
Mais ensuite, et rien que ce chiffre en dit long sur la puissance de l'émission, vous avez participé à la tournée pendant 2 ans.
Oui.
Une tournée de 2 ans en restant 5 semaines dans une émission, c'est dire la force du programme. Et cette actu, c'est un doc qui passe samedi soir sur TF1, 20 ans de la Starac, le doc événement, très rare que TF1 en programme un documentaire à 21h. Et pour donner un chiffre, ce fut l'émission de variété la plus regardée de l'histoire de la télé. 11 820 000 téléspectateurs pour la finale de la première saison. Mmh. Alexia Laroche-Joubert le dit dans le documentaire, c'était vraiment le plus gros prime produit au monde. Vous confirmez, Nathalie André ?
Bien sûr. Oui, c'est une émission culte. Je rectifie, j'ai travaillé sur la Star Academy de 2000 à 2008, puisque j'étais directrice artistique, je faisais venir les personnalités, les chanteurs, les comédiens au château. Et donc, c'est une émission qui a fait des audiences absolument hallucinantes.
Une émission qui était un vrai phénomène. Les candidats l'ont réalisée en sortant du château. On va entendre Jean-Pascal, Patrice et d'autres.
Quand on est descendu comme ça sur les Champs-Élysées, je me rappelle d'une chose, les gardes du corps qui étaient à côté de nous avaient la foule. La foule, elle nous a portés. On est tous pris dans un truc incroyable, quoi. Je me suis fait arracher mes vêtements, on m'a piqué un bonnet, on m'a déchiré le t-shirt.
J'étais comme ça, moi, j'étais à Saint-Michel.
Karima Charny, vous n'êtes pas connu par définition la surprise de la saison 1, puisque vous étiez dans la saison 4.
Absolument.
Mais quand même, l'engouement du public, ça se manifestait comment ?
Bien, l'anecdote que raconte Jean-Pascal, on l'a tous vécu, les Champs-Élysées, on allait faire une séance de dédicace pour le premier single, pour l'hymne de la Star Academy. Donc, nous aussi, on l'a vécu, et je vous avoue que même si vous savez, au bout de la quatrième saison, que vous allez être connu en sortant de l'émission, ça reste quelque chose d'assez magique, effrayant. C'est une vague, en fait, qui arrive. On ne se rend pas compte de la notoriété, de la puissance de l'émission quand on est participant. Vraiment.
Autre symptôme de la puissance de l'émission avec Élodie Frégé qui a remporté la saison 3, ce serait impensable maintenant. Elle était l'invitée du 20h de TF1, présentée à l'époque par Laurence Ferrari. Extrait.
Alors Élodie, bonsoir.
Bonsoir.
Effectivement, vous êtes là avec nous sur ce plateau parce que vous avez gagné la Star Academy. Quand vous jetez un coup d'œil en arrière sur ces 4 mois, c'est quoi ? C'est un grand tourbillon ? Vous réalisez à quel point votre vie a changé aujourd'hui ou pas ?
Je ne sais pas si je réalise encore, mais en tout cas, je crois que c'est les 4 mois les plus terribles et les plus merveilleux de toute ma vie en même temps.
Terrible et merveilleux, ce serait impensable aujourd'hui. Pour dire les choses différemment, sous l'angle inverse, il n'y a plus une seule émission dont on inviterait le vainqueur aux 20h.
Déjà, il n'y a plus une seule émission qui aurait autant de stars internationales sur son plateau.
Exactement.
Et qui inviterait une candidate aux 20h, ça c'est clair. Mais Élodie Frégé a été une gagnante magnifique puisqu'elle a déjà partagé son gain de 1 million d'euros avec Michal. Et c'est, de toute façon, c'est une émission qui ne pourrait plus exister, qui était magnifiquement animée par Nikos.
Pour quelles raisons elle ne pourrait plus exister ?
De budget déjà.
Parce que, pour des raisons de budget, ensuite parce que les stars à l'époque ne venaient pas seuls, ils arrivaient à 47, enfin, Puff Daddy, il arrivait avec 47 personnes.
À vos frais ?
Maria Carré. Jamais. On n'a jamais payé les artistes.
C'est une maison de disques.
Les artistes, contrairement à ce que tout le monde pense, n'étaient pas payés.
Ouais.
Ils venaient, ils étaient en promotion et... Ce qui était le plus difficile pour nous, c'était qu'ils acceptent de partager leurs titres avec des élèves qui ne connaissaient pas, ils ne savaient pas chanter, et ils partageaient à 50% leurs titres. C'était très dur.
À part vous deux, qui on voit dans ce documentaire ?
Oh, nous, pour notre saison, la Star Academy 4, vous savez, on a une saison particulière. On est tous là, surtout pour défendre l'association Grégory Lemarchal, dès qu'on se déplace. Donc nous, la saison 4, on est nombreux. À mes côtés, il y a la finaliste, Lucie, Bernard Denis, Mathieu Johan, Francesca Antoniotti, Sofiane, Oda. Oui, non, on est nombreux à représenter la Star Academy 4.
Il y a Armand Altaï, il y a Nikos, bien sûr. Bien sûr. Mathieu Gonnet, qui était notre directeur musical.
Ouais.
Pascal Nègre.
Cyril Sinelou, encore beaucoup d'autres. Et Francesca Antoniotti, oui, qui maintenant fait une belle carrière.
Exactement, dans le foot.
Dont on a entendu beaucoup parler. Vous parliez des superstars américaines et pas seulement qui venaient dans la Star Academy. On va l'entendre juste après ça avec notamment l'extrait, la venue. Je vous donnais un verre d'eau, Nathalie André, la venue de Madonna à la Star. À tout de suite.
Verre d'eau pour l'examiner lui aussi.
À tout de suite.
Europe 1, Culture Média. 9h, 11h. Philippe Vandel. 9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Nathalie André et de Karima Charny. Karima Charny qui était candidate de la saison 4 de la Star Academy. Nathalie André qui en était la directrice artistique. Mais pas seulement, vous avez accueilli des dizaines de stars internationales. Nathalie André, on peut dire quelques noms ?
Rihanna, Beyoncé, Liza Minnelli, Ray Charles, Jamiroquai, Madonna, Stevie Wonder.
Non, ce qui est génial, c'est que vous en oubliez. Vous oubliez Jennifer Lopez, Tina Turner. C'est hallucinant quand on voit la liste.
Première télé de
Rihanna. Ah non, excusez-moi, Jennifer Lopez, elle n'est pas venue sur le Prime, elle est venue au château en hélicoptère.
On voit ces images, parce que je dois dire, il y a un doc qui passe samedi soir sur TF1 et on voit son arrivée, c'est époustouflant.
C'est lunaire.
Mais Maria Carré qui descend de la limousine avec ses talons aiguilles et qui rentre dans le château, je peux vous assurer que c'était un très très grand moment.
Ouais,
et pour les élèves et pour nous, avec mon équipe qui programmions l'émission, c'était hallucinant.
Et il y avait aussi Madonna. Madonna, c'était pas la plus facile pour le staff et également pour les candidats. Écoutez.
Oh, Madonna, c'est un souvenir très particulier.
Madonna, pour la première fois à la Star Academy.
Déjà, elle a toute une équipe qui arrive bien avant qu'elle arrive, elle. Par exemple, ils comptent les pas. Elle compte les pas entre sa loge et le plateau. Donc, il faut lui donner la loge la plus proche du plateau. Après, les gens sont terrorisés par elle. Donc, personne n'osait lui parler.
Ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'on avait quand même eu la consigne qu'on devait, en gros, pas la regarder dans les yeux, qu'on devait pas lui parler. On n'avait pas le droit de l'approcher.
Il fallait pas bouger.
Et d'un seul coup, quand elle vient vers nous,
on sait plus trop. Genre, du coup, c'est quoi la consigne? J'ai pas d'oreillette.
Je la touche pas.
Je la pousse.
C'était assez impressionnant. Nathalie André, on vous entend dire dans le doc, c'était le jour le plus compliqué de ma carrière professionnelle. Vraiment, et pourquoi ?
D'abord parce qu'on avait très peu de répétitions, que le même jour, on réunissait sur le plateau Stevie Wonder, Madonna, Alanis Morissette, Johnny Hallyday, Santana.
Il y a des gens, ça leur fait leur saison.
Mais c'était incroyable et on était tellement en retard dans les répétitions parce qu'on avait pas beaucoup, on avait une journée, que Madonna est arrivée dans, bon, Alexia raconte très bien dans le doc ce qui se passe, mais Kamel avait fait une chorégraphie hallucinante et dans les mains des danseuses il y avait des pigments de peinture et les danseuses ont jeté les pigments de peinture, tout est tombé sur le plateau et on a dit à Madonna, vous vous inquiétez pas, dans 2 minutes tout sera nettoyé, et elle nous a regardé, elle nous a dit, dans 2 minutes je serai déjà chez moi, et elle est partie. Donc on a dû faire un merdier pas possible parce que on était toujours en direct et c'était le seul empex qu'on a, un empex c'est un enregistrement l'après-midi, donc on avait empexé Madonna, on avait Santana qui attendait, Stevie Wonder qui attendait pour faire 3 titres, Johnny Hallyday qui a répété, il était 21h. C'était une journée incroyable. Et au milieu de tout ça, il y avait qui ? Mimi Mati. C'était qui avait un single.
Oh, la chute.
C'était une journée de
c'était
dingue.
Ça, la Star Academy, tout.
Extraordinaire. La Star Academy, c'était les premiers pas de Nikos Aliagas en tant qu'animateur d'un gros, gros prime. On va entendre Alexia Laroche-Joubert qui en parle et également, évidemment, l'intéressé.
C'était assez difficile pour moi au début parce que je n'avais pas les codes du présentateur à 20h50 sur TF1.
Alors les démarrages, mais il vous racontera ça mieux que moi, ont été un peu laborieux parce que de chroniqueur, il se retrouvait en direct, en prime, et il perdait sa voix.
Oui, je suis pas perdu, je suis pas dans mon costume encore, c'est sûr.
Donc on a dû travailler sur sa voix, on a travaillé sur son look, etc., etc., mais il avait une empathie, et il était tellement content d'être là qu'il a plu tout de suite aux Français.
Je m'en remets pas de cette anecdote. Madonna, Stevie Wonder, Mimi Mati, Nathalie André.
Et le pauvre Kamel qui a fait des scénographies absolument fabuleuses, à nous mettre la pluie sur les plateaux, des choses incroyables ce jour-là. Sa scénographie qu'il avait préparée avec un truc qui descendait du ciel, du plafond, n'est pas descendue. Enfin, il y avait, c'était
y a
pour
des
nous,
comme
4
ça.
Ans de travail, parce qu'il faut savoir que Madonna, c'était 4 ans de travail pour qu'elle vienne, comme tous les artistes d'ailleurs. Et comme Stevie Wonder, Tina Turner, enfin je ne peux pas citer tous. Moi je retiens aussi Liza Minnelli, qui est une des plus grandes artistes américaines. Quand elle arrive sur le plateau et qu'elle chante, c'était impressionnant. Donc tous les samedis, on vivait des choses hallucinantes.
Et également des moments d'émotion très particuliers, notamment pendant la saison 4, dont vous avez fait partie, Karima Charny, qui a été particulière, je l'ai dit, puisqu'il y avait un candidat brillant qu'on n'a pas oublié, Grégory Lemarchal, qui a été emporté depuis par la mucoviscidose. Déjà, vous le rencontrez sans même le rencontrer.
Oui.
Vous avez raconté ça une fois, j'ai retrouvé une ancienne interview de vous, parce que vous avez été caché à l'hôtel pendant 4 ou 5 jours pendant les répétitions, avant que tout le monde arrive.
Avant le premier prime.
Et vous l'entendez tousser à travers le mur de la chambre d'à côté, sans savoir qui il est, sans savoir que c'est lui.
Absolument. Et on avait des nounous qui étaient avec nous, qui nous accompagnaient pour ne pas nous laisser seuls. Et je disais, mais il ne faut pas que je croise ce monsieur, je ne peux pas tomber malade la veille de mon premier prime sur TF1, etc. Et en fait, il y avait déjà des rumeurs dans la presse qui disaient qu'un candidat malade allait entrer dans la Star Academy. Et ma nounou a dévoilé un secret. Elle m'a dit, écoute, les rumeurs sont vraies et il est dans la chambre d'à côté. Et donc, en fait, ma première rencontre avec Greg, c'était une rencontre via mur interposé.
Quel genre de garçon était-il et quel souvenir vous gardez de lui ?
Taquin, fou, drôle, talentueux, fort,
courageux. Un courage extraordinaire, des parents formidables, un mec génial et une voix d'une puissance.
C'est sa voix,
absolument dingue.
Et quand il raconte sa maladie à tous les participants, il s'assoit sur vos genoux.
Sur mes genoux, c'est le destin, c'est ce que je me dis des fois avec sa mère. On en parle, on en rigole, on en sourit. Voilà, on était destinés pour être copains, je pense. Et puis c'est vrai que le premier soir, il vient s'asseoir sur mes genoux dans le bus qui nous amène à Damarie Lélis et il dit, bon les copains, je vous appelle Derek les copains parce que de toute façon on est partis ensemble, voilà ma maladie, je vous explique tout et on
c'est
en parle plus après s'il vous plaît.
Il faut savoir que c'est Grégory et ses parents, c'est Grégory qui a insisté pour rentrer dans la Star Academy parce qu'il pensait que ça allait le sauver et ça l'a sauvé pendant un moment. Malheureusement la greffe n'est pas arrivée à temps, mais c'est vraiment lui qui a insisté auprès de ses parents et auprès de la production et de Pascal Nègre et de Bertrand qui faisait le casting des voix et il a voulu rentrer dans Star Academy.
Et pardon, mais contrairement à tout ce que tout le monde peut penser, il n'a jamais été traité autrement que nous. Il n'y avait pas un truc spécial,
à part
la pièce qu'il avait pour sa kiné, ce qui est totalement normal. Il a toujours été traité de la même manière que tous les autres candidats. C'est important de le souligner, je pense.
Il y avait aussi la vie dans le château. C'est un petit peu passé sous silence dans le documentaire. Pourquoi ça vous fait sourire ? On ne peut pas parler de tout. Il y a beaucoup d'histoires dans le château.
Oh bah oui.
Bon.
Tout n'est pas diffusable,
c'est normal.
Attendez, tout n'est pas diffusable. Et il y a eu des engueulades qui n'ont pas été diffusables. Nathalie André, en préparant l'entretien, l'engueulade avec Rod Stewart, je ne l'ai pas vue dans...
Oh là, mon Dieu, mon Dieu.
Vous n'attendiez pas à ça. Qu'est-ce qu'il vous a dit, Rod Stewart ?
En fait, il a décidé à deux minutes...
Vous avez dit, j'ai failli m'en prendre une.
Il n'y a pas qu'avec Rod Stewart, j'ai failli m'en prendre une avec P. Diddy. On a été traité avec ma collaboratrice Julie Greenbaum, on a été traité de pute par Jamiroquai.
Non.
Oui, parce que les artistes, c'était pour eux, on était des cinglés, ça n'existe pas aux États-Unis, la Star Academy. Donc quand ils arrivaient et qu'on leur présentait Karima, Pierre, Nicolas, je ne sais qui, et qui devaient chanter avec eux. Le seul qui n'a... On a reçu Booba, c'était génial. On a eu des stars énormes. Le seul qui n'a pas accepté de partager sa chanson et qui a planté tout le monde en direct, c'était Jamiroquai. Ouais. Mais Rod Stewart, à 2 minutes de rentrée, il décide de changer de chanson. Je lui dis, ce n'est pas possible, on raconte une histoire. Et il regarde son manager et il dit, celle-là, elle sort, sinon je ne fais pas l'émission. Donc je me suis retrouvée sous la neige, dehors du plateau, parce que si Rod Stewart me voyait, et il a changé de chanson, je suis rentrée à quatre pattes sur le plateau en direct pour prévenir l'élève.
Vous vous rendez compte ce que tout le monde a dû vivre pour vendre un sublime rêve à tous les téléspectateurs tous les vendredis.
Vous vendez très bien l'émission. Juste
mille.
Un tout petit mot, si je suis bien informée, il y a un projet autour de Coluche qui va arriver le 11 juin.
Ah oui, c'est très gentil. Une production de Spica sa production un très beau documentaire sur Coluche qui passera sur France 3 le 11 juin, réalisé par Mathieu Jaubert.
Vous savez quoi ? Il y a des infos incroyables sur Coluche dans le livre de Charles de Turckheim, puisqu'il a écrit sa première pièce. Il y a des révélations dans ce livre. Elle arrive tout à l'heure.
On est en partenariat avec vous sur
Europe
1. Oui,
avec Europe 1. Ça tombe très très bien. Merci beaucoup, Karima
Charlie.
Merci Nathalie André. Je rappelle, les 20 ans de la Starac, le doc événement, c'est samedi soir.
En même temps que l'Eurovision, c'est une cata pour nous.
Ah oui, mince, fallait pas le dire.
Il y a le replay, il y a le replay.
Culture Média continue. Après le rappel des titres de 10h, il y a Eva Rock pour son zapping du lendemain avec une enquête sur l'énorme héritage de Claude Berry. Et Bertrand Chameroy pour son écran de veille. Mince, j'aurais bien aimé un bout de bouchon. Pouc, parce qu'il nous a fait une spéciale réouverture. Notre invité, c'est donc Charlotte de Turckheim pour le dictionnaire de ma vie. Et puis dans les indispensables du jazz et le retour des expositions immersives en vrai. A tout de suite.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.